Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Bordel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média. Et quelle semaine! Vous l'entendez? Si vous nous écoutez en direct et non pas en podcast, nous avons retrouvé notre horaire déconfiné de 9h à 11h. Mais nous n'avons pas changé notre menu. Média et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Disons qu'on accueille davantage de convives autour de la table. Avec quand même la distance qu'il faut. Nicolas Carreau sera avec nous tous les jours cette semaine pour présenter les sélectionnés pour le prix Europe 1 GMF. Il s'agit de littérature évidemment. Et puis avec Clément Le Saffre, on va parler des conséquences du virus sur le business des jeux vidéo. Qui a gagné, qui a perdu, on dirait un jeu vidéo. Il y aura le journal des médias évidemment, le journal de la culture, les audiences et le retour d'une séquence qui manquait, le portrait inattendu d'Hélène Manarino avec un florilège. C'est le mot français pour dire best-of. Aujourd'hui, la romancière Leïla Slimani. Notre infomédia ensuite avec cette question que se pose la presse cinéma et pas seulement les critiques de films. Comment continuer à parler de cinéma quand les salles sont fermées depuis plus de 2 mois? Réponse avec Thierry Chaise, c'est le rédacteur en chef de Première. Nos invités ensuite, Riyad Satouf, dessinateur connu dans le monde entier pour l'Arabe du futur, traduit en 22 langues. Il revient en télé avec sa série d'animation Les Cahiers d'Esther qui démarre ce soir sur Canal+, en quotidienne. Et puis il y a 40 ans, Claude Lelouch avait traversé la ville de Paris un petit matin à fond la caisse en grillant 15 feux rouges. Il n'y avait pas un Hidalgo. Il a refait la scène mais à Monaco sur le parcours du Grand Prix mais en Ferrari avec au volant Charles Leclerc, le pilote F1. Vous les entendrez tous les deux. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et je salue ici en retour. Bonjour Céline Dacosta.
Mais bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Ce matin, je vous parle de Camélia Jordana qui ne partira pas en vacances avec Christophe Castaner, de Camille Combal qui quitte la radio, des radios privées qui demandent à ce que la pub quitte le service public, du Sénat qui vole au secours de la presse écrite et d'un nouveau venu dans l'univers des podcasts.
Mais on commence par les audiences évidemment. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end à la télévision?
Un match serré hier soir, mais c'était TF1 et son film musclé White House Down qui l'emporte avec 4 741 000 téléspectateurs. C'est 300 000 de mieux que Le Brio sur France 2. Le film avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana a été regardé par 4 436 000 personnes. Troisième position sur le podium pour notre cher commissaire Dupin. Il y avait près de 3 millions et demi de téléspectateurs devant France 3. Et à noter le bon score d'Arte avec un hommage à Michel Piccoli. Le film Les choses de la vie a été regardé par 1 million et demi de personnes.
Et puis les audiences, Cyril, de vendredi et de samedi soir?
Business as usual, vendredi, Koh-Lanta fait ses 6 millions et demi de téléspectateurs. À force de le dire chaque semaine, on pourrait croire que ce score est devenu banal, mais ne vous y trompez pas. La régularité de Koh-Lanta à ce niveau est exceptionnelle, a fortiori pour une émission dont la première diffusion remonte à 2001. Quant à samedi, là aussi, comme les semaines précédentes, c'est France 3 qui l'emporte. Près de 5 300 000 personnes ont regardé une rediffusion du téléfilm Mémoire de sang. C'est quasiment 2 millions de plus que lors de son premier passage sur France 3 en septembre 2018. Samedi, c'était aussi le retour d'On n'est pas couché. Et bien malheureusement pour Laurent Ruquier, les téléspectateurs n'ont pas semblé avoir été en manque. Il y avait moins de 630 000 personnes devant France 2. C'est 300 000 de moins que lors du précédent numéro de l'émission diffusé le 14 mars dernier. On n'est pas couché, on en reparle dans une seconde.
Culture Média.
Effectivement Cyril, une seconde, on commence donc ce journal des médias parce qu'il s'est passé samedi soir sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2.
Ça commence par une passe d'armes sur le plateau entre la chanteuse et comédienne Camélia Jordana et l'écrivain Philippe Besson, on écoute.
Je veux dire, ils font ce qu'on leur demande et par ailleurs, ils sont extrêmement mal payés eux aussi pour faire ce qu'on leur demande. Ils obéissent aux ordres, donc on peut contester les ordres. Je veux bien que vous contestiez les ordres d'un gouvernement qui demande de taper les manifestants, ça oui.
Mais les flics, moi, je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau.
Couleur de peau, je suis d'accord.
C'est un fait.
Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité. Et je voudrais pas qu'on l'oublie.
Mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Et j'en fais partie.
Je l'entends.
Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Vraiment.
Eux aussi sont parfois attaqués, quand même. Vous êtes d'accord, les flics?
Pas par des milliers de personnes, en fait. C'est comme me parler de féminisme et de me dire, oui, mais quand même, il y a des gonzesses qui... En fait, non. Le combat est tel qu'on ne peut pas, du coup, voir l'espèce de virgule qui serait l'arbre, qui cacherait la forêt et qui permettrait de minimiser le combat dont il est question, en fait. Je suis désolée.
On entend qu'Amélia Jordana s'en prend à la police et l'accuse de délit de faciès. Alors forcément, ça n'a pas plu à celui qu'on surnomme le premier flic de France, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner a répondu à Amélia Jordana sur Twitter. Selon lui, la chanteuse tient des propos mensongers et honteux qui alimentent la haine et la violence. Et toujours, selon le ministre, cela appelle à une condamnation sans réserve. Quelques heures plus tard, Amélia Jordana répond à son tour à Christophe Castaner. Elle assure vouloir alimenter un dialogue avec les dirigeants politiques pour faire avancer les choses. Mais à ses yeux, le ministre nie alors qu'il voit très bien ce qui se passe. Et la chanteuse de conclure, votre devoir est de nous protéger. Protégez-nous, le tout accompagné d'une vidéo montrant des violences policières durant les semaines de confinement. Dans un autre message, Amélia Jordana assure qu'elle ne reviendra pas sur ce qui s'est passé samedi soir, mais qu'elle est disposée à en débattre sur un plateau avec le ministre de l'Intérieur.
Tout à fait autre chose, une page qui se tourne chez nos voisins de Virgin Radio.
Camille Combal a décidé d'arrêter sa matinale Virgin Tonic. Il l'annonce ce matin dans Le Parisien. Après 6 saisons à la tête de l'émission, l'animateur a choisi de ne pas continuer avec Virgin et il assure n'avoir aucun projet côté radio. La rentrée de Camille Combal sera donc entièrement consacrée à TF1 avec une nouvelle saison de Danse avec les Stars et de Masked Singer. Et il va reprendre très bientôt le tournage d'un nouveau divertissement, Plan C, interrompu pour cause de coronavirus.
Et puis Cyril, on reste dans le secteur de la radio. Les radios privées demandent au gouvernement de suspendre la publicité sur le service public.
180 représentants de radios privées ont écrit à Édouard Philippe pour lui demander un sérieux coup de main. Elle propose un moratoire de 1 ou 2 ans sur la publicité que diffuse Radio France. Les signataires soulignent dans leur courrier que leur secteur est le grand oublié du plan d'urgence du gouvernement en faveur de la culture. Les radios d'ailleurs disaient déjà la même chose concernant la loi de réforme de l'audiovisuel. Dans cette lettre au Premier ministre, rendue publique par le journal du dimanche hier, les radios privées estiment que la chute brutale de leurs revenus publicitaires leur impose de prendre des mesures de restriction budgétaire et pourrait rapidement menacer la viabilité, leur viabilité. Toujours dans le JDD, le ministre de la Culture leur répond, et ça va pas leur faire plaisir, selon Franck Riester, aucune extension ni diminution de la publicité sur les antennes du service public n'est envisagée.
Crise sanitaire toujours, Cyril, le Sénat se penche sur l'avenir de la presse écrite.
Comment permettre à la presse écrite de passer le cap de la pandémie tout en confortant enfin son modèle économique et son indépendance? Voilà qui ferait un excellent sujet de mémoire pour des étudiants en école de journalisme. Et il y a de quoi faire. Avec la crise sanitaire, la diffusion des journaux a baissé en moyenne de 20% et les revenus publicitaires ont chuté de près de 80%. Il est donc urgent de trouver des solutions. Les sénateurs ont décidé de s'emparer du problème et de fournir leurs propres préconisations. Nous avons joint le sénateur Michel Laugier qui s'occupe du groupe presse au sein de la commission culture du Sénat et nous détaille leurs propositions.
Première proposition, c'est dans le cadre du prochain collectif budgétaire, c'est qu'il y ait un fonds de soutien spécifique pour justement aider et que les outils qui existent soient aussi développés. Parce qu'il y a des fonds déjà qui sont mis à disposition, mais il faut, je crois, les mobiliser le plus rapidement possible. Deuxième chose tout à fait simple, c'est tout simplement de décaler le remboursement à la poste des frais d'affranchissement. Donc de le décaler de 1 mois, ce qui ferait un peu de trésorerie aussi pour les éditeurs. Ensuite, organiser une sortie progressive du chômage partiel afin qu'on puisse tenir compte aussi du décalage qu'il y aura avec la reprise de l'activité. Et puis, une chose aussi tout à fait simple, mais qui ferait du bien, c'est de concentrer sur la presse les campagnes de communication institutionnelle du gouvernement, de préférence bien sûr aux plateformes numériques.
Le Sénat qui soutient également la mesure d'un crédit d'impôt en faveur des annonceurs, une idée déjà demandée par le secteur de l'audiovisuel.
On va peut-être terminer le journal, non ?
Oui, ben je sais pas.
Alors on termine avec un podcast Europe 1 Studio qui a commencé, qui est en ligne depuis ce matin. Mr. President, c'est le titre de ce nouveau podcast que nous propose Olivier Duhamel, qui a décidé de se pencher sur les grandes et petites histoires de l'élection présidentielle américaine. Évidemment, la période n'y est pas pour rien dans le lancement de cette série de 12 numéros de Mr. President. Dans un peu plus de 5 mois, les Américains se rendront aux urnes pour départager Donald Trump, l'actuel président, et Joe Biden, le très probable candidat démocrate. Nous avons profité du lancement de ce podcast pour demander à Olivier Duhamel de nous donner les enjeux de l'élection à venir.
L'histoire des présidentielles américaines est tout à fait passionnante et je la rencontre en 12 épisodes. Est-ce qu'elle permet de prévoir l'issue de l'élection présidentielle de novembre 2020? Eh bien, on pourrait dire oui, elle le permet, puisque quand il y a une crise économique, c'est le camp au pouvoir qui perd. C'est comme ça que Obama a battu McCain avec la grande crise de 2008 et que Biden va battre Trump. Ou bien je pourrais dire exactement le contraire. Mais non, regardez, vous avez des cycles. 1992-2000, deux mandats démocrates. 2000-2008, deux mandats républicains. 2008-2016, deux mandats démocrates. Et donc maintenant, 2016-2024, deux mandats républicains. Donc Trump va être réélu. Et en vérité, ce que nous apprennent les élections américaines, c'est qu'elles sont très souvent imprévisibles et que personne ne peut dire qui va gagner la prochaine.
L'incertitude est donc totale, alors si vous voulez tout comprendre sur ce qui reste une des élections les plus observées et commentées dans le monde, écoutez donc Mr. President de Mr. Duhamel.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière et ce nouvel horaire. On vous retrouve demain à 9h pour un nouveau journal des médias.
Et à suivre l'info média du jour, vous rêvez de vous faire une toile, il va falloir patienter encore un moment. On va parler cinéma et presse cinéma dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est alors Philippe de l'info média du jour.
Avec cette question, comment continuer à parler de cinéma quand les salles sont fermées depuis plus de 2 mois? C'est le casse-tête de la presse spécialisée. On attend que les salles rouvrent, peut-être en juillet, comme y songe le ministre de la Culture Franck Riester. Il a fallu trouver des idées de sujets pour que les journaux continuent de remplir leurs pages. Pour en parler, nous sommes avec Thierry Chaise, le rédacteur en chef du mensuel Première. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Question de base, à quel point Thierry, ça vous manque de ne pas aller dans une salle de cinéma?
Sur une échelle de 100 à 102 à peu près. Voilà, si on peut résumer. Mais bon, on prend son mal en patience.
Alors malgré le confinement, Première est continué de paraître, dans quelles conditions?
D'abord, il y a eu, comme tout le monde, le saisissement du jour où on a appris tout ça, et il a fallu se retourner très vite. Nous, c'est vrai que les salles constituent à peu près 80% du journal. Mmh. Il y a une partie consacrée aux séries, une partie consacrée aux films sur les plateformes. Mais il a très vite fallu que ces parties consacrées aux séries et aux plateformes prennent le pas sur le reste. Donc c'est une adaptation, on a, comme tout le monde, appris à marcher en marchant, je dirais, et essayé de trouver des sujets en fonction de cela.
Avant de parler des sujets, vous avez continué de paraître, mais tous, parce qu'il y a un numéro qui n'est pas sorti en version papier, je me trompe pas.
Exactement, le numéro actuel est sorti, alors la version papier était réservée aux abonnés, le fait que les kiosques étaient pour beaucoup fermés, et surtout ceux dans les gares et les aéroports où nous on fait beaucoup de novembre, c'était fermé, on a choisi d'en faire un numéro numérique, je dirais.
D'accord.
Mais le prochain qui sort mercredi sera de nouveau en kiosque.
Ce sera quoi la couve?
La couve, ce sera Wonder Woman 1984, la suite du film de Patty Jenkins.
Ah bah justement, j'attendais ça depuis 84. Vous faites bien de faire une là-dessus. Le dernier numéro était daté du 24 avril. Il était intitulé « Pourquoi nous retournerons au cinéma ?» Pourquoi avoir fait le choix de continuer de paraître? Vous auriez pu également, comme l'a fait Voici par exemple, décider d'interrompre la parution papier.
Oui, moi je pense que comme Voici est un hebdomadaire, c'est un peu différent. Ils sont passés en rythme mensuel. Nous, on a des abonnés à qui on doit, pour moi, de continuer l'actualité. Deux, la question aurait pu se poser si on n'avait eu ni idée, ni retour par rapport à nos idées. C'est-à-dire si personne n'avait répondu à ce questionnaire, par exemple, si on n'avait pas pu savoir par avance ce qu'il allait y avoir sur les plateformes pour les traiter, si on n'avait eu aucune matière, évidemment qu'on ne l'aurait pas fait. Donc on a eu cette idée dès le départ de demander aux gens pourquoi il faut revenir au cinéma, et on s'est aperçu que les gens répondaient assez vite. Donc à partir de là, on a construit un numéro, plus faible en pagination certes, mais moi pour moi le lien doit continuer. La radio n'a pas arrêté, la télé n'a pas arrêté. À partir du moment où les sujets auxquels on pensait étaient faisables, il n'y avait aucune raison d'arrêter.
La publicité a continué parce que nous, ici à Europe, on était absolument ravis de continuer à entendre de la publicité. Paradoxalement, tout n'était pas perdu, tout n'est pas parti à l'eau pour tout le monde. Et pour vous, est-ce que la pub est rentrée? J'imagine qu'il n'y avait plus la pub des annonces de sortie, par exemple.
Exactement. Et c'est ceux-là, ces pubs-là qui ont manqué. On a eu la chance d'avoir quelques annonceurs qui sont restés. C'est évidemment la question qui va se poser pour la presse en général et la presse spécialisée dans les mois qui viennent. Mais, alors on a évidemment moins qu'avant, mais on a quelques-uns. Mais ça va être le nerf de la guerre, évidemment, comme pour tout le monde, dans les 6, 8 mois, années qui viennent.
Première, c'est un mensuel. Il y a un problème, pas un problème, il y a une question de délai. Vous êtes confronté à un problème de temporalité, puisque vous devez boucler un mois avant.
Ouais.
Comment vous avez fait pour savoir quoi mettre dans le magazine?
Alors, c'est toute la difficulté. En gros, lorsque on traite des films en salle, il y a un calendrier des sorties qui existe et qui est à peu près respecté. Mmh. Là, on s'intéressait au calendrier des plateformes, et le fait est que les plateformes, pour citer les plus importantes, que ce soit Netflix, que ce soit Amazon et autres, ne donnent pas ces infos en avant, soit parce qu'elles ne les ont pas forcément, en tous les cas la partie française, soit parce que, pour des raisons de concurrence, elles ne veulent pas donner les dates. Eh bien, on s'est efforcé de demander les choses, et on a obtenu assez en amont, dans le prochain numéro par exemple, on a pu avoir une interview exclusive de Spike Lee pour Five Da Blood, qui est le nouveau film qui va être disponible sur Netflix. En fait, on a essayé de dire aux plateformes, aidez-nous aussi en donnant quelques infos, sinon on ne va pas y arriver, et on va arriver, si c'est pour traiter les films des plateformes un mois après tout le monde, ça n'a aucun intérêt évidemment.
Mais j'imagine que les gens des plateformes comprenaient bien qu'ils avaient intérêt à travailler avec vous la main dans la main, et que c'était pas comme d'habitude, que à la guerre comme à la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été plus coopératifs? C'est quand même la guerre encore plus entre eux, parce qu'il y a le confinement et que les gens se ruent davantage sur la VOD et surtout la SVOD.
Moi, je pense qu'il y a ça, avec en plus l'arrivée de Disney+, qui est arrivée dans ce moment-là. Il y a ça, il y a le fait que les parties françaises de ces groupes n'ont pas toujours les infos très précises. C'est-à-dire que nous, les dates sont importantes, et parfois, ils ont des dates de mise en ligne à 15 jours près. Ils ont fait, vraiment, nous, on n'a pas eu la semaine, ils ont fait un effort, mais je pense que c'est pas dans leur manière de fonctionner, c'est pas dans leur ADN. Voilà. Il a fallu aussi les bouger, sauf que c'est plus facile de bouger un groupe comme nous, on est 10, qu'une énorme entreprise mondialisée.
Ouais, 10, c'est pas un groupe, c'est un groupuscule, hein, pardon de dire ça. C'est pas pour faire injure au magazine Première, mais c'est une petite équipe très soudée. Autre difficulté du confinement qu'on n'imagine pas, c'est que les doubleurs n'ont pas pu doubler les séries en français.
Exactement. Et c'est aussi ce qui explique les séries, et puis pour les films aussi de la même manière. Et c'est ce qui explique les calendriers qui pouvaient être changeants. Je pense que depuis la fin du confinement, enfin le début de la fin du confinement, ça doit fonctionner dans les maisons de doublage en 3-8, parce que c'était vraiment leur gros problème, c'est de dire oui, on va avoir ça à disposition, mais on ne sait pas si ce sera fin mai, début juin, parce que on ne sait pas quand est-ce que les doubleurs vont revenir. En fait, c'est toujours ça. Lorsque quelque chose s'arrête, on voit la partie immergée de l'iceberg, mais tout ce qui se passe en dessous est aussi à l'arrêt. Le temps que ça redémarre, le temps que ce soit fait, c'est évidemment un problème.
Et justement, on va parler de prospective avec vous. Vous restez avec nous, Thierry Chaise, rédacteur en chef, du mensuel Première.
La crise due au coronavirus a grandement touché le domaine de la culture. Le cinéma et la presse cinéma font partie des dommages collatéraux. On continue à en parler avec notre invité dans un court instant sur Europe 1. Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel. Plusieurs mois maintenant qu'on ne s'est pas donné rendez-vous pour se faire une toile, un film sur grand écran. Plusieurs mois que la presse cinéma est privée de sa matière première. On en parle ce matin dans l'info média du jour, Philippe, avec Thierry Chaise, le rédacteur en chef du magazine Première.
Thierry Chaise, le ministre de la Culture, Franck Riester, planche sur une réouverture des salles en juillet. Est-ce que vous y croyez à cette date de juillet?
Moi, j'y crois. J'ai tendance à y croire. Parce qu'on a l'impression que tous les clignotants passent peu à peu du rouge à l'orange et de l'orange au vert. Ouais. D'y croire parce que les professionnels, enfin les exploitants, travaillent dessus depuis un moment et que la date de mi-juillet me paraît la plus raisonnable parce que ça laisse encore un mois. Mais il y a quelque chose de particulier avec les cinémas, contrairement aux restaurants. Ouais. C'est que les restaurants peuvent réouvrir dans une région et pas dans une autre. Les cinémas, en fait, il faut qu'ils rouvrent en même temps partout. Parce que les distributeurs font de la promotion pour un film dans son c'est que s'il sort que dans 20 copies et puis dans 100 copies un mois après, ça n'est pas possible économiquement.
Bien sûr, vous êtes favorable à cette sortie. Qu'est-ce qu'on va voir comme nouveauté? Il y aura des nouveautés ou est-ce qu'on va voir les films de mars qui attendaient leur tour et qui pourront éventuellement être encore à l'affiche?
Alors, c'est encore un petit peu flou, mais des conversations qui ont pu transparaître, il y aura en effet les films de mars qui n'ont pas terminé leur carrière. Je pense à deux films français qui étaient notamment le De Gaulle et La Bonne Épouse, qui avaient bien démarré mais qui auraient pu aller plus loin. Il y a quelques petits films qui se mettent en place et puis il y a deux gros rendez-vous américains encore pour l'instant calés. C'est le nouveau Christopher Nolan qui s'appelle Tenet, qui est prévu de sortir le 23 juillet, c'est le réalisateur d'Inception. Et puis, c'est en août, Wonder Woman 1984. Tous deux sont distribués par la Warner. Tant que ces films-là n'ont pas changé leur date, j'ai envie de dire que la Warner aussi semble y croire. Et ce sera lié à ça. Ce qui est vrai aussi, c'est que comme les salles seront réduites en taille, il est possible que les exploitants demandent, d'habitude, admettons qu'une salle ait 10 écrans. Un gros film sort au maximum sur 2 écrans sur 10 de ces cinémas.
Ouais.
Il se peut qu'elle demande qu'exceptionnellement, ces gros films sortent sur 7 ou 8 écrans pour pouvoir compenser les 50% d'absence de leur salle.
Le taux de remplissage d'une salle, c'est combien en moyenne? Parce que si un siège sur deux est occupé, mais que le taux de remplissage est de 50%, en fait, ça sera presque indolore, ces mesures de confinement.
En fait, le problème, au-delà, c'est plus qu'un chiffre, c'est que si vous allez au cinéma la semaine, l'après-midi, il n'y a aucun problème, ça sera moins de 50%. Si vous allez au cinéma le mercredi soir, le samedi, le dimanche et le vendredi soir, là, c'est quasiment 100% pour les gros films. En fait, c'est quelque chose de presque de prototype à chaque fois. Donc, raisonner en absolu est très compliqué. Parce que ça marchera certains après-midi, mais au moment des grands rendez-vous, pour les salles, c'est un vrai problème. Du coup, je pense que certaines salles décideront d'attendre pour réouvrir.
Il y a une manière d'aller voir des films dès maintenant en toute sécurité, c'est les drive-in et les tournées, notamment dans le sud de la France, du côté de Bordeaux. Vous avez suivi cette polémique autour des drive-in. J'informe nos auditeurs, auditrices. Donc, il y a des films qui sont projetés devant 150 voitures, donc 300 spectateurs qui écoutent le son dans leur autoradio par un système adéquat. Et la Fédération des cinémas voit ça d'un très mauvais œil, je les cite. La FNCF regrette profondément les dégâts médiatiques et économiques que provoquent ces manifestations qui détournent les spectateurs, les médias, l'administration locale ou nationale du seul combat à mener, la réouverture des salles. Réaction, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Moi, je pense que le combat de la réouverture des salles, il existe vraiment dans la tête de tous les professionnels hors exploitants, qu'ils soient producteurs, distributeurs, acteurs, techniciens et journalistes,
Est-ce que vous pensez que les drive-in détournent les spectateurs de leur futur retour en salle?
Non, mais pas plus que pour moi, les plateformes ne détournent. On a dit, la télévision va détourner les spectateurs, Canal Plus va détourner les spectateurs, la vidéo va détourner les spectateurs, le piratage va détourner les spectateurs. Non, pour moi, lorsqu'il y aura des salles, les gens reviendront peut-être, comme pour les restaurants avec un ton. Mais là, c'est une manière de patienter pour moi. Donc, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et je pense que, d'ailleurs, ceux qui font ces drive-in ne se présentent pas contre le retour en salle. Je crois qu'ils participent à garder un goût avec un grand écran. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais il y a toujours une opposition entre les exploitants et ceux qui distribuent les films. C'est de tout temps, coronavirus ou non.
Le prochain numéro de Première sort mercredi, vous l'avez dit, avec Wonder Woman en couverture, plus une interview de Tarantino, mais hors promo, c'est ça?
Exactement.
Il n'a pas de film, comment vous avez réussi ce coup-là?
Eh bien, c'est Frédéric Foubert, notre journaliste. En fait, il fait des critiques sur le site de son... il a un cinéma à Los Angeles, il fait des critiques de films. Eh bien, tout simplement, on lui a écrit, on avait déjà parlé pour quel film, et il a répondu bien volontiers. Et il nous annonce d'ailleurs que quasiment, eh bien, il va arrêter de faire du cinéma pour maintenant écrire sur le cinéma. Il va faire l'inverse d'un Truffaut, en gros.
Dingue.
Voilà, il veut devenir essentiellement critique. Lui, il a toujours dit qu'il ferait que 10 films. Il en est à 9 et que maintenant sa passion, c'est d'écrire sur les films des autres.
Thierry Chaise, je ne vous souhaite pas le malheur. Je ne veux pas vous porter la poisse, mais combien de temps vous pouvez encore sortir un mensuel sans avoir de salle de cinéma ouverte?
Moi, je pense peu de temps. Il y a le numéro double d'été qu'on est en train de faire avec deux hypothèses: salle ouverte, salle fermée.
Ouais.
Et puis voilà, mais moi j'ai du mal à croire que ça ne sera pas réouvert. Donc voilà, après, c'est toujours une question de pub. C'est comme pour tous les autres médias, au-delà des salles, c'est est-ce que les annonceurs continueront à nous suivre? C'est le pari qu'on fait tous, parce qu'on a envie d'être optimiste, quoi.
Restons sur cet optimisme. Merci beaucoup Thierry Chaise, rédacteur chef du mensuel Première. Prochain numéro, ça sort mercredi. Numéro papier, Wonder Woman en couverture et l'interview de Quentin Tarantino avec des scoops hors promo.
Notre prochain invité, Riyad Satouf, avec lui on parlera évidemment bande dessinée, mais aussi série d'animation, puisque la saison 2 des Cahiers d'Esther arrive sur Canal+, et en clair s'il vous plaît. On y revient juste après ça sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Merci d'avoir choisi Culture Média ce lundi matin, et vous avez bien fait parce qu'on accueille Riyad Satouf, Philippe.
Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour Philippe Vandel.
Plaisir de vous entendre, dessinateur et cinéaste, les beaux gosses, mais surtout auteur de BD, l'Arabe du futur, 2,5 millions d'albums vendus, traduits dans 22 langues. J'ai une autre manière de vous présenter. C'est vous qui avez réalisé la couverture du Petit Robert 2020, le dictionnaire, après y être entré en 2018. Et là, vous avez une double actualité. Le 11 juin va sortir un nouvel album des Cahiers d'Esther aux éditions Alary, l'histoire de mes 14 ans. Mais c'est également une série sur Canal+ qui démarre ce soir. 52 épisodes de 2 minutes que vous avez
avez écrit et co-réalisé. Ça sera tous les jours à 20h55, en clair. Mais on peut également suivre les cahiers d'Esther toutes les semaines dans l'Obs, où elle a 15 ans. Question, qui est Esther, pour qui ne la connaît pas? Et quel est son âge véritable? Elle a 14, 11 ou 15 ans?
Oui, alors Esther, c'est une véritable jeune fille qui est la fille d'un couple d'amis à moi et qui me raconte des histoires dont je me sers pour faire à la base des bandes dessinées qui paraissent toutes les semaines dans l'Obs,
ouais,
et qui sont ensuite réunies en volume chaque année. Donc l'idée, c'est de faire un volume de ces histoires et de ces aventures par an jusqu'à ses 18 ans. Voilà, et donc alors actuellement, la vraie Esther a 15 ans, mmh. L'album qui sort le 11 juin, c'est l'année de ses 14 ans, et là, la série d'animation qui commence sur Canal ce soir, c'est la saison 2 donc de cette série d'animation, et elle a 11 ans. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment diviser son parcours en années avec une tranche d'aventure par âge.
Ouais, elle existe pour de vrai ou est-ce que c'est un mix de plusieurs jeunes filles condensées en une seule? Parce que dans les remerciements, vous remerciez Esther A. Donc vous savez que son nom de famille commence par un A.
Oui, non, elle existe réellement. Alors bien sûr, je dissimule énormément de choses, je change les têtes des personnages, je change leur nom. Le but n'est pas de faire, le journal intime d'une jeune fille.
C'est
justement, je m'inspire de ce qu'elle me raconte, de la façon dont elle voit le monde, de la façon dont elle comprend la société et de son. J'aime illustrer son évolution, mais le but c'est pas de suivre au plus près sa vie et de l'exposer.
Bien sûr, et qu'ensuite elle se fasse chambrer par ses copains et copines. Dans le deuxième épisode, donc, qui va passer mardi, Esther, donc, elle est en classe, elle est dans une école privée à Paris dans le 17e, racontez-vous, et elle doit se choisir un ou une chouchou, ça existe vraiment?
Eh ben, dans son école, c'était le cas. C'est-à-dire que elle était en CM2, et donc quand les CP à chaque rentrée scolaire, les CP arrivaient, ils étaient un petit peu effrayés de quitter la maternelle.
Ouais.
Et donc dans cette école, ils avaient trouvé un moyen, ce qui était de les grands devaient se choisir un petit CP et le protéger, lui apprendre la vie voilà. À l'école. Et donc voilà.
Le petit chouchou, j'ai découvert ça. Et alors, je ne savais pas que ça existait, et je ne pensais pas que c'était aussi pointu chez les bobos.
Gwenaëlle, elle était dans une école D1. C'est des écoles où on parle breton. En fait, c'est une langue qui est en Bretagne. Bon, coucou ma belle, bienvenue à Paris. Ici, c'est pas la Bretagne.
Bon, Esther, t'es aucun quantique à cœur galon.
Ouais, t'es gentil, mais je comprends rien. Quelqu'un peut-il me sauver, s'il vous plaît? Merci.
Non, mais vraiment des parents qui demandent à leurs enfants de ne parler que breton?
Non, c'est pas de parler que breton, ce sont des écoles en Bretagne où la langue bretonne est enseignée. En effet, Esther s'était retrouvée avec une chouchoute bretonne et surtout elle était angoissée parce qu'elle comprenait rien de ce qu'elle lui disait.
Non, mais attendez, la petite bretonne, elle ne comprend pas qu'on est en France et qu'il y a des gens qui parlent français également.
Ah oui, mais quand on est un petit enfant comme
d'accord.
Ça, on a peur, surtout dans la nouveauté.
Alors, c'est une autre forme de langage, parce que vous êtes très attaché au mot Riyad Satouf. Il y a également les Marseillais. Alors, les Marseillais, c'est des gens qui habitent à Marseille, mais c'est aussi un programme de télé. Alors, Esther connaît pas ce programme, mais elle a découvert ça sur le portable, parce qu'elle n'a pas la télé, sur le portable de sa meilleure copine Cassandre. On écoute.
Les Marseillais, c'est une émission sur des vraies personnes qui veulent travailler dans le milieu de la nuit et qui viennent d'une ville qui s'appelle Marseille ou je sais pas. C'est une ville où les gens parlent bizarrement.
Eh, viens, je te dis là. J'ai quelque chose à te dire.
Par exemple, ils disent « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» au lieu de « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Mais même si on a du mal à comprendre, c'est très intéressant car c'est des problématiques de jeunes.
Ben, en fait, moi j'aimerais avoir une explication du bisou de lui à Raouel, savoir pourquoi ils ont fait ça, mais lui,
il n'y a pas moyen.
Les garçons, ils sont trop sportifs et toujours à moi, on se prend pas la tête.
Viens, je te tire.
Mais non, je te tire. Je veux pas venir. Je vais aller au bord de la piscine. Je veux pas.
Bah, va voir ta piscine.
Et puis ils sont toujours en slip ou en maillot de bain géniaux. Non, je plaisante.
On a bien reconnu les Marseillais. ça vous heurte cette façon de parler? Vous, dans la langue maternelle, je le précise, n'étiez pas le français.
Non, alors moi je suis simplement le témoin de ce que me raconte Esther, parce que elle, comme elle n'a pas le droit de regarder la télévision,
ouais,
elle a accès au monde de la culture, disons grand public, par ses copines qui elles ont toutes les vannes ouvertes. Donc c'est très rigolo de voir ce que quelqu'un de très protégé perçoit de la culture populaire. Comme ça, elle en revenait pas. Comme elle est très jeune, elle ne sait même pas où est située Marseille. En fait, elle quand elle voit les Marseillais, pour elle, c'est vraiment une autre planète. Et c'est ça qui est intéressant pour moi de raconter.
Mais sur les langues, vous avez dit récemment, vous venez de Syrie, et vous avez dit récemment, ma patrie, c'est la langue française.
Oui, non mais alors, bon, c'est vrai que j'ai ma première langue maternelle, disons, ça a été l'arabe que j'ai perdu avec le temps en fait, et le français, c'est une langue que j'adore et qui est pour moi la langue de l'imaginaire et la langue des histoires. Donc j'adore tous les différents français, disons, et j'aime essayer de retranscrire les mots, la façon de parler, l'évolution de cette langue, même au travers des accents, mais au travers aussi de la façon de parler des jeunes qui montre que le français est une langue extrêmement vivante.
Mais oui, dit. Vous êtes très sensible aux voix. C'est d'ailleurs vous qui faites la voix du papa. Alors, il parle pas beaucoup, le papa. Il émet des phrases courtes. On a fait un montage. On écoute.
Hey, c'est la fin de la semaine.
Oui, bébé, vas-y. Allez.
Oh là-haut.
Oh là-haut, ça c'est vous. Vous êtes créé un papa très baraqué, prof de sport, ce que vous n'êtes pas du tout dans la vraie vie. Il avait quelle voix votre père à vous?
Oh, il avait un peu le même genre de voix que moi. Mais c'est vrai que le doublage, c'est quelque chose que j'adore. Je pense qu'on a tous gardé en mémoire dans nos têtes quand on regardait les films américains dans les années 80 et 90 avec toutes ces voix de doubleurs géniaux comme Francis Lacks, etc. Et je voulais retrouver ça dans les cahiers d'Esther, justement, avec des voix très très marquées et qui puissent nous rendre nostalgiques quand on les réentendra dans quelques années.
Il y a une histoire absolument délicieuse. C'est quand le premier dessin animé d'Astérix est sorti, ça m'en vient tout de suite. Il y a un petit garçon qui a écrit à Goscinny et Uderzo, qui étaient les créateurs, et il a écrit en disant, substance, je suis très déçu par le dessin animé parce que Obélix n'a pas du tout la même voix que dans les albums.
Ouais, non, c'est vrai, ça c'est très très délicat. C'est pareil aussi avec les séries d'animation de Tintin, par exemple, ou les films de Tintin. Quand on voit, on entend la voix du capitaine Haddock, c'est un risque à prendre. Évidemment, quand on lit les albums des Cahiers d'Esther, on a sans doute une autre, on peut avoir une autre voix dans la tête que celle du. Mais c'est un challenge que je trouve intéressant à relever, d'essayer de garder cette continuité, d'essayer de retrouver. D'ailleurs, tous les acteurs qui doublent les enfants dans la série, sont des enfants qui ont l'âge des personnages, donc leur voix évolue avec les années.
Bah, ils vont muer, vous allez voir quand Esther va avoir 18 ans, vous allez avoir des problèmes de puberté. Vous restez avec nous, Riyad Satouf.
Vous avez aimé la première saison de la série d'animation de Riyad Satouf, Les Cahiers d'Esther, diffusée sur Canal+. Réjouissez-vous, la saison 2 arrive et on continue à en parler avec Riyad Satouf dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf ont été adaptés sur Canal+, une première saison diffusée en clair. La deuxième démarre ce soir. On en parle avec notre invité Riyad Satouf, Philippe.
Un épisode par jour, nous sommes jeudi, ce sera l'épisode 4. Il est question des dents. La jeune Esther, 11 ans, va chez la dentiste. Elle n'a pas peur de la dentiste, c'est une dentiste qui fait pas mal, sauf qu'il y a un problème. La dentiste lui annonce, je cite, que ses canines sont trop proches de ses incisives et donc elle va les écarter. Et la suite, c'est Esther qui raconte.
Donc je vais avoir un appareil comme mon frère, trop moche.
Esther, un appareil. Hey, tu vas trop souffrir ta race.
La dentiste m'a dit, on se revoit en juin pour la pause. Depuis, chaque soir, je fais une prière. Oui, une vraie prière, pour demander à Dieu d'avoir pitié de moi. Oh Seigneur, faites que je souffre, car souffrir ne me fait pas peur, mais pitié, pitié, faites que cet appareil ne me rende pas plus laide que je suis. En effet, l'année prochaine, c'est le collège, et si je pouvais rester un tout petit peu populaire, ça me rendrait tellement heureuse. Vraiment, merci mon Seigneur.
C'est si important que ça, Riyad Satouf, d'être populaire?
Alors pour Esther, pour la vraie Esther, c'était très très important parce que en fait, elle est populaire. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que il s'est retrouvé qu'elle était populaire dans son école et donc c'était surtout.
En fait, je veux dire le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est quand moi j'avais 11 ans, c'était pas une question qui se posait. On s'en foutait complètement d'être populaire ou pas populaire.
Oui, alors mais ça, je pense que c'est parce que peut-être, je ne sais pas comment vous étiez, Philippe, à 11 ans, mais peut-être vous étiez pas populaire.
Normal.
C'est que une fois qu'on est devenu
ni l'un ni l'autre, est-ce que je veux dire ni oui ni non, quoi.
Moi, sûrement ça.
Ça, je l'ai compris avec Esther, parce que moi-même aussi, j'étais absolument pas populaire et j'avais aucun intérêt pour ça, mais. Il se trouve qu'elle, c'est une jeune fille qui était assez mignonne, qui travaillait bien à l'école, qui avait beaucoup d'amis, dont les garçons étaient amoureux, etc. Et donc, l'important quand on est populaire, c'est d'essayer de le rester.
Ah oui.
Et donc, elle a extrêmement peur de perdre son statut social. Et c'est ça que j'aime bien observer. Donc, elle fait beaucoup d'efforts pour ça. Elle fait du sport, elle fait de la danse, etc. Elle a l'impression qu'il y a tout un tas de comportements à avoir qui vous permettent de rester au top. Et ça me plaisait beaucoup d'observer ça.
Et maintenant, ça me revient, j'étais populaire parce qu'une fois, j'ai été élu délégué de classe alors que je m'étais même pas présenté.
Ça m'étonne.
Alors, Riyad Satouf, c'est très rapide dans le générique. Il y a un générique à la fin déroulant. Et je l'ai vu en faisant une image arrêtée. Musique générique.
Et là, Céline Dacosta se dit, mais pourquoi il nous passe le générique? Eh bien,
c'est
parce
joli,
que
en
c'est,
tout cas.
C'est assez rare pour être signalé. Heureusement que vous avez dit ça. Parce que c'est vous, Riyad Satouf, qui avez composé la musique. Vous êtes vraiment musicien ou c'était une façon, comme ça se fait souvent, de vous, de toucher des droits d'auteur?
Non, alors je...
Vous savez que je connais les combines.
Mais vous avez raison, Philippe. Ouais. C'est vrai qu'il y a, les deux choses sont liées. Ouais. Mais il se trouve que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait de la musique. Je fais de la guitare et j'avais participé à la musique de tous mes films. Donc j'avais participé avec Flers à la musique des Beaux Gosses. Mon premier film, j'avais fait tout seul la musique de mon second film, Jackie Heureux des filles. Et donc là, la série des Cahiers d'Esther, j'ai en effet composé la musique du petit générique. C'est parce que voilà, j'aime bien.
Mais très bien. Au moins, c'est vous qui jouez. C'est pas une couverture comme ça arrive parfois. Il y a de la réflexion. Les Cahiers d'Esther, évidemment, ça se lit sur deux niveaux. Ça peut être lu quand on est un enfant et ça peut être lu quand on est un parent. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est la manière que vous avez de parler de justement ce qui vous frappe chez les jeunes générations. Et vous parlez du retour de la domination masculine. Riyad Satouf, expliquez ça.
Alors, c'est vrai que c'est une chose qui m'a surpris quand, au travers des histoires d'Esther, et qui était une différence, je trouve, par rapport à ma propre expérience de collégien, de garçon à l'école dans les années 90, c'est que Esther a quand même affaire à des comportements de garçons qui sont très particuliers. Il y a un retour du sexisme, moi je trouve, dans ce qu'elle me dit. Alors, elle a beaucoup de copines qui sont en lutte contre la domination masculine, etc. Mais il y a quand même dans les comportements des garçons ça m'a beaucoup surpris. Ils se comportent beaucoup comme des petits caïds.
Vous dites
martyrisent un peu les filles.
Vous dites aucune fille ne porte de jupe pour ne pas être mal vue.
Oui, voilà, il y a ça aussi. C'est vrai que les comportements sont très normés. Alors, il se trouve qu'en plus, elle était dans une école quand même extrêmement privilégiée parce qu'elle,
bien sûr,
elle est pas riche, mais son père voulait absolument qu'elle soit dans une école privée. Et donc, c'est quand même un lieu. Mais même là, voilà, elle était très aux prises avec les garçons qui embêtent les filles toute la journée, qui ont des comportements, qui glorifient les comportements de la mafia. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de mythologie comme ça du garçon caïd avec lequel elle doit composer, qui est très compliqué.
Et vous dites ça également en analysant le rap dominant que les jeunes écoutent.
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi par Esther. C'est que c'est vrai que le hip-hop est devenu la musique vraiment dominante chez les jeunes. Alors il y a certains courants de musique hip-hop, certains groupes de hip-hop qui ont des paroles quand même extrêmement violentes, etc. Et qui influencent des garçons dans la cour d'école d'Esther. Et c'est toujours marrant de voir c'est intéressant d'observer comment ça peut imprégner une société comme ça, mais surtout dans des classes très privilégiées comme la classe à laquelle appartient Esther. Et donc elle, en tant que fille, elle est vraiment confrontée à des comportements parfois qui sont très durs, quoi.
Je veux dire, ce qui m'a frappé, qui m'a vraiment intéressé dans ce que vous dites le rap qui véhicule une pensée réactionnaire qui idéalise l'argent, les valeurs traditionnelles et la famille, la valeur patriarcale totalement conservatrice. Merci d'avoir été avec nous, Riyad Satouf. Je le rappelle,
merci Philippe.
Les Cahiers d'Esther, c'est ce soir sur Canal+, ça démarre 52 épisodes de 2 minutes du lundi au vendredi à 20h55 en clair avec un très très beau générique. Et puis le 11 juin, le nouvel album des Cahiers d'Esther, l'histoire de mes 14 ans, ça sort chez Alary. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h, place à la culture. Nous serons avec le réalisateur Claude Lelouch. Il nous fait le bonheur de nous accorder sa première interview radio avec une actu toute fraîche. Hier, il tournait son nouveau court-métrage dans les rues de Monaco avec comme acteur principal une star de la F1, Charles Leclerc. Remake de son court-métrage mythique, C'était un rendez-vous et sa chevauchée folle en plein Paris en 76. Et puis dans les indispensables, toute cette semaine, Nicolas Carreau va nous présenter un livre en compétition pour le prix Europe 1 GMF. Aujourd'hui, Le Courage des Autres, c'est un joli titre, monsieur. Titre de lâche aussi, Le Courage des Autres. Et puis on va s'interroger sur les conséquences du coronavirus sur le secteur des jeux vidéo avec Clément Le Saffre. Dans un instant, le journal de la culture d'Hélène Manarino. Vous avez vu, c'est un riche, riche sommaire. Et toute la semaine, on va vous proposer en fin d'émission le meilleur de ces portraits inattendus. Aujourd'hui, la romancière Leïla Slimani.